Leçon 13. Souvenir en Chine. Tout au long de son histoire, bon gré mal gré, la Chine a périodiquement ouvert ses portes pour les refermer à nouveau. Avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, elle est entrée depuis 10 ans dans une nouvelle phase d'ouverture. Mark Saltzman, diplômé de littérature chinoise de l'université Yale, a enseigné à l'école de médecine de Hunan à Changsha, d'août 1982 à juillet 1984. Cette expérience lui a permis de se faire une idée d'un système éducatif qui essaie de se remettre des affres de la révolution culturelle.
1. Madame Wei, mon professeur de chinois classique. Le logement des professeurs américains était équipé d'une baignoire, car les étrangers ne sont pas censés utiliser les bains publics que fréquentent les Chinois. Un jour que je sortais de mon bain, une serviette autour de la taille, je tombai sur Madame Wu, présidente de la faculté, qui était entrée dans ma chambre. Cette enseignante septuagénaire était accompagnée d'une dame fluette et grisonnante qui semblait avoir le même âge. Sans paraître s'apercevoir que j'étais à demi nu et ruisselant, Madame Wu fit les présentations.
Marc, voici le professeur Wei, dit-elle. Comme vous avez une formation surtout en chinois classique, elle se propose de vous aider, si vous le désirez, à approfondir vos connaissances.
Madame Wu voulait qu'on convienne sur le champ d'un emploi du temps, mais Madame Wei la poussa hors de la pièce.
Il est tout mouillé pour l'instant, je reviendrai demain, dit-elle.
Lorsqu'elles furent parties, je me souvins que j'avais déjà rencontré le professeur Wei au cours d'une réception de bienvenue donnée le lendemain de mon arrivée. Un étudiant m'avait pris à part et dit qu'elle passait pour le professeur le plus sévère de la faculté. On disait même que personne ne l'avait jamais vu rire.
Je n'eus guère le temps de me demander comment je ferais pour m'entendre avec une personnalité aussi austère. En effet, le soir même, je devais faire un exposé dans le cadre d'une série de conférences sur la culture occidentale. Ces causeries, qui avaient lieu dans la plus grande salle de la faculté, étaient ouvertes à toutes les personnes intéressées par l'étude de la langue anglaise, en général plusieurs centaines de personnes. Ce soir-là, je devais parler sur le film E.T.
Avant la conférence, j'avais noté les épisodes du film tels que je me les rappelais, puis réfléchi à certains mots du vocabulaire qu'il me faudrait expliquer. Je décidai d'adopter une expression, une démarche ou un ton différent pour chaque personnage et d'alterner récits et scènes mimées. Je craignais que le public ne juge enfantine cette façon de raconter une histoire, mais je fus vite rassuré. Lorsque je présentais E.T. en bondissant sur la table, puis en sautillant, les genoux ramenés sous le menton et les bras ballants, la salle se leva et se mit à applaudir. Le lendemain, Madame Wei survint après le xiuxi, version chinoise de la sieste. Elle accepta une tasse de thé, mit ses lunettes et prit un livre dans son sac de toile.
« Nous allons commencer avec un essai de Tao Qian, dit-elle. C'était un ermite, mais aussi un gros buveur qui vivait il y a plus de 1500 ans. La plupart des grands auteurs chinois étaient buveurs et rêveurs. Elle s'arrêta, ôta ses lunettes et me regarda avec attention. « J'ai assisté à votre conférence hier soir. Vous êtes un polisson. »
Elle prit dans son sac un petit flacon qu'elle me tendit. En l'ouvrant, je constatai qu'il contenait une dose de paitiao, du vin blanc chinois.
Comme nous allons lire les œuvres de buveurs et de rêveurs, dit-elle, et comme de toute évidence vous êtes vous-même très original, j'ai jugé approprié de vous faire apprécier leurs œuvres de cette façon. Désormais, j'apporterai une petite bouteille de paitiao à chaque fois. Si vous ne finissez pas le vin, pas de leçon.
Je finis le vin, à sa grande satisfaction. Elle remit alors ses lunettes et la leçon commença. Madame Wei enseignait selon la tradition chinoise, c'est-à-dire en prenant très au sérieux mon développement personnel. Elle me donnait des conseils sur mes repas, mes vêtements, ma famille et mes amis, mes études et le sport. Parfois, elle m'agaçait et je lui expliquais qu'en Amérique, les enfants deviennent des adultes en entrant à l'université et qu'ils aiment prendre leurs décisions eux-mêmes à partir de ce moment-là. Elle était consternée.
Mais alors, vos parents et vos professeurs ne prennent pas soin de vous ?
Si, bien sûr, mais...
Comment peuvent-ils vous négliger ainsi alors que vous n'êtes encore qu'un enfant ? Comment pouvez-vous croire un seul instant que vous êtes capable de tout comprendre ? Vous n'avez que 22 ans. Et puis vous êtes si loin de chez vous. Et je suis votre professeur. Si je ne prends pas soin de vous, vous allez vous sentir bien seul.
Elle insistait sur le fait qu'en Chine, les liens unissant maître et disciple avaient existé avant même l'époque de Confucius et ne devaient pas être sous-estimés. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver du respect pour ses convictions. Et elle semblait prendre tellement de plaisir à essayer de me modeler que je finis par ne plus lui opposer de résistance.
Marc, pourquoi riez-vous pendant vos conférences ?
Parce que je m'amuse, professeur Wei.
Ah, je vois. Riez-moi, car il peut paraître bizarre de s'amuser autant de ses propres plaisanteries. Les autres peuvent penser que vous êtes un peu fou, ou peut-être que vous n'avez pas de manière.
Croyez-vous qu'il soit mauvais de rire ?
Non, non, pas du tout. C'est même très sain. Nous avons un proverbe qui dit que le rire est une recette de longue vie. Cependant, vous ne devriez pas rire autant. Vous risquez des troubles digestifs.
2. Adieu près un pont. Nous atteignîmes un pont dont je commençais à gravir la pente raide. Nous nous arrêtâmes au sommet de la côte pour regarder les lumières de la ville.
Est-ce que ça vous rappelle l'Amérique ? Me demanda-t-elle.
Oui, un peu.
Vous avez le mal du pays ?
Beaucoup. Mais je vais rentrer bientôt. Et je sais que lorsque je serai là-bas, c'est Changsha qui me manquera.
Vraiment ? Pourtant la Chine est tellement... Tenez, dites-moi plutôt, comment vous trouvez la Chine ?
Les lumières sont plus pâles. Le foulard qui lui enveloppait le visage ne laissait voir que ses yeux. Je lui demandais si elle se trouvait ennuyeuse. Je vis à ses yeux plissés qu'elle riait.
Non, je ne suis pas ennuyeuse. Je crois même que je suis intéressante. Ce n'est pas votre avis ?
Bien sûr que si. Sa peau était si pâle que je pus voir à ses paupières qu'elle avait rougi. Nous restâmes silencieux quelques instants. Puis elle me demanda si j'étais d'un naturel triste ou gai. C'est très difficile à dire. Parfois je suis gai et parfois non. En général, j'ai tendance à me faire trop de soucis.
Je ne comprends pas. Vous êtes tellement libre. Vous pouvez voyager où vous voulez, vous faire des amis partout. C'est stupide de ne pas être heureux, surtout lorsque tellement de gens peuvent en profiter.
Que voulez-vous dire ?
Mon cousin dit qu'à l'université, on vous a surnommé Rouxianxian, c'est-à-dire immortel sous forme humaine, parce que vous êtes tellement différent. Vos cours font rire tout le monde et vous rendez les gens heureux. Ce n'est pas commun du tout.
Je lui demandais si elle était heureuse ou pas.
Je n'ai pas autant de raisons que vous d'être heureuse, dit-elle. Elle regarda sa montre et hocha la tête. Je dois rentrer, dépêchons-nous.
Comme j'allais reprendre la bicyclette, elle se pencha vers moi, son visage tout près du mien, et me regarda droit dans les yeux.
J'ai une idée, dit-elle. Descendons le pont en roue libre, à toute allure, sans frein.
J'enfourchai la bicyclette. On y va ? Demandai-je.
Un instant, je descendrai du bicyclette au bas de la côte. Alors, je vais vous dire adieu maintenant.
Mais je pourrais au moins vous laisser à l'entrée de l'hôpital.
Non, ce ne serait pas une bonne idée. On pourrait me voir et me demander qui vous êtes. Je sauterai de bicyclette au bas du pont et vous ferai demi-tour. Je ne vous reverrai pas. Alors merci. J'ai eu beaucoup de joie à vous rencontrer. Ne vous faites plus de soucis, surtout.
Elle grimpa sur la bicyclette, appuya sa tête contre mon dos, me serra très fort et dit
« Allez-y, aussi vite que vous pourrez. » Marc Salzman, sélection du Reader's Digest, 1988.
Vocabulaire.
Tout au long.
Bon gré, mal gré.
Une phase.
Se remettre de.
Les affres.
Censé.
Tomber sur.
Septuagénaire.
Fluer, fluette.
Grisonnant, grisonnante.
Ruisselant, ruisselante.
Se proposer de faire quelque chose.
Convenir de.
Sur le champ.
Prendre quelqu'un à part.
Passer pour.
S'entendre avec quelqu'un.
Austère.
Une causerie.
Parler sur.
Noter.
Un épisode.
Une démarche.
Un ton.
Rassurer.
Alterner.
Mimer.
Enfantin, enfantine.
Sautiller.
Le menton.
Les genoux ramenés sous le menton.
Ballon, ballante.
Un ermite.
Un buveur.
Un rêveur.
Ôté.
Un polisson.
La toile.
Un flacon.
De toute évidence.
Original, originaux.
Approprié.
À la satisfaction de.
Prendre quelque chose au sérieux.
Agacé.
Consterné.
Prendre soin de.
Négligé.
Un disciple.
Confucius.
Sous-estimé.
Une conviction.
Modelé.
Opposé.
Les manières.
Un trouble.
Digestif, digestive.
Une pente.
La côte.
Le mal du pays.
Un foulard.
Plissé.
Un naturel.
Avoir tendance à faire quelque chose.
Stupide.
Surnommé.
Immortel.
Se pencher vers quelqu'un.
Regarder quelqu'un droit dans les yeux.
À toute allure.
Enfourcher.
Faire demi-tour.
Il est peut-être confortable de ne jamais se tromper, mais ceux qui commettent 1000 erreurs dans leur passion de bien faire sont plus utiles à l'humanité.
Lecture. Souvenir en Chine. Elle s'appelle Petite Mie, dit-il avec soulagement. Elle est très intelligente et très consciencieuse. À l'école, elle était responsable de la Ligue des jeunesses communistes. Pendant la Révolution culturelle, elle a été volontaire pour partir à la campagne où elle est presque morte de faim. Finalement, elle a tout de même pu entrer à l'université pour faire ses études de médecine. C'est la plus intelligente de sa promotion.
D'après ce portrait, Petite Mie ne devait pas être d'un abord très folichon. Je me grattais la gorge, espérant que mon étudiant fixerait un rendez-vous et me laisserait tranquille. Mais il continuait de parler.
Sa spécialité, c'est la pédiatrie, dit-il. Elle voulait s'occuper d'enfants, mais après son diplôme, au moment de l'attribution des postes, on a fait courir une rumeur prétendant qu'elle et d'autres anglicistes lisaient de la littérature occidentale en dehors des cours. Au lieu d'être affectée dans un bon hôpital, elle s'est retrouvée dans un petit centre de planning familial à aider les médecins pour les avortements. Ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'elle est atteinte de leucémie. La vie n'a vraiment pas été facile pour elle. Quand puis-je l'amener ?
Je lui dis qu'elle pouvait venir à mon bureau le soir même. Il me remercia avec effusion et partit.
À l'heure du rendez-vous, on frappa à ma porte. C'était Petite May. Elle devait être à peine plus âgée que moi. Menue, l'air sérieux, elle était ravissante.
« Vous êtes le professeur Marc ?» demanda-t-elle.
« Oui, c'est moi. Entrez, je vous en prie. Que puis-je faire pour vous ?» Elle entra, s'assit et dit dans un anglais parfait.
« J'adore lire, mais c'est difficile de trouver de bons livres en anglais. Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'en prêter un ou deux ? Je vous les réexpédierai de Harpin dès que je les aurai finis. »
Je l'autorisai à prendre ce qui lui plairait dans ma bibliothèque. Tout en furetant dans les rayons, elle me parlait des romans étrangers qu'elle avait aimés. Des souris et des hommes, tant qu'il y aura des hommes, l'archipel du Goulag. « Comment avez-vous pu vous procurer l'archipel du Goulag ?» lui demandai-je.
« Ça n'a pas été facile. On dit que les Américains ont été horrifiés en le lisant. C'est vrai ?»«
Oui, c'est vrai. Pas vous ?»«
Pas vraiment, » répondit-elle tranquillement.
Je me souvins alors de ce que son cousin m'avait raconté à son sujet. « Vous, au moins, dis-je, vous avez du caractère. »
Elle me regarda d'un air surpris, puis mit la main devant sa bouche pour étouffer un petit rire nerveux. « C'est terrible !» s'exclama-t-elle. « Je ne suis pas du tout comme ça. »
Notre conversation dura plus d'une heure. Lorsqu'elle se leva pour partir, je lui demandai quand elle devait rentrer à Harbin.
« Après-demain, » répondit-elle.
Contrairement à mes intentions, je lui demandai de revenir le lendemain soir. Elle me regarda attentivement.
« Merci, je viendrai, » dit-elle, avant de disparaître dans le couloir sombre. Marc Salzman.
Vocabulaire.
Un soulagement.
Une promotion.
Un abord.
Folichon, folichonne.
Se gratter.
La pédiatrie.
Une rumeur.
Être affecté.
Le planning familial.
Un avortement.
La leucémie.
Une effusion.
Menu.
Ravissant, ravissante.
Réexpédié.
L'archipel du Goulag.
Horrifié.
À son sujet.
Avoir du caractère.
Étouffé.
Nerveux, nerveuse.